sujet d'aujourd'hui consiste à avoir une lecture croisée d'un texte commun à trois traditions, qui est la ligature d'Isaac, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, pardon, donc dans la tradition juive chrétienne, et qu'on trouve également dans le Coran. Alors, c'est Isaac ou Ismaël. D'accord, Jean-Jacques, c'est bien ça, j'ai pas dit de bêtises. Et donc, pour ce faire, on vous propose deux temps. Le premier temps, c'est que chaque intervenant va vous présenter l'approche orthodoxe de sa religion, l'approche orthodoxe de sa lecture herméneutique d'un texte, herméneutique, la compréhension du sens, hein, je rappelle, herméneutique exégétique éventuellement, exégétique étant l'étude de la langue, ses sources, sa racine. Donc, premier temps de 7 minutes chacun pour l'approche orthodoxe. Et ensuite, 12 minutes sur le texte lui-même de la ligature. Voilà. Et un petit temps ensuite, si vous le souhaitez, de rebond, réaction. Voilà. On va faire ça, si vous voulez bien, par ordre chronologique, n'est-ce pas ? Ça paraît, comme disait Eric, respectueux, logique. Enfin voilà, ça fait du sens. Donc, Georges Elia, si vous voulez bien, pendant ces 7 premières minutes, nous présenter un petit peu la façon dont le judaïsme, on travaille un texte, on comprend, on le lit. Merci.
Bonsoir à tout le monde. Donc, alors, effectivement, le texte et le thème sur lequel nous sommes invités à exposer ce soir est très brièvement, ce qui est une prouesse malgré tout, étant donné les enjeux. Concerne ce qu'on appelle ordinairement le sacrifice d'Isaac. Et comme vous l'avez aussitôt rectifié, il s'agit aussi de la ligature d'Isaac. En hébreu, Akedat Isaac. Il faut situer ce passage de manière précise. Cet épisode intervient dans la Bible hébraïque et juive au 4e chapitre du livre de la Genèse. Et après, précisément, l'épisode de la prise de conscience par Abraham du Créateur, de l'existence d'un Dieu unique. On a l'annonce, d'une certaine manière, de cette fameuse épreuve qui est proposée à Abraham au chapitre 22, verset 1, introduit par ce verset, et il arriva après ces événements que la divinité éprouva Abraham. Alors, il faut tout de suite attirer l'attention de toutes les personnes qui lisent ce texte sur les problèmes que pose la traduction. On l'a signalé d'emblée. Akedat Yitzhak, donc c'est la ligature d'Isaac. Donc, on a une difficulté, si vous voulez, qui tient à la réception initiale de ce texte, et dont il faut bien signaler qu'il s'agit, à travers la traduction du sacrifice d'Isaac, d'une double erreur. D'une traduction indue en quelque sorte. En fait, il ne s'agit pas d'un sacrifice, un tel sacrifice n'a pas eu lieu, il s'agit plus exactement d'une épreuve. De surcroît, cette épreuve n'est pas tant celle qui vise Yitzhak, qui est pourtant au centre de l'épisode, puisqu'il y va éventuellement de sa vie. Le sacrifice éventuel, donc le menace dans son existence même, mais il s'agit d'une épreuve qui concerne en premier lieu Abraham lui-même. Alors, comme vous le savez peut-être, mais cela apparaît dans le narratif biblique, Abraham passe par 10 épreuves, selon l'identification des différents exégèses, en tout cas dans la tradition rabbinique. Alors, on pourrait éventuellement parler, et ce sera un débat à part entière, de la question de savoir quelles sont les épreuves d'Abraham. Pour vous dire les choses très exactement, les rabbins ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. Il y a une typologie qui varie de l'un à l'autre, déjà chez les commentateurs médiévaux qui sont considérés comme les commentateurs classiques de ces passages. Par exemple, pour citer la source principale, le traité, les Pirkei Avot, ce qu'on appelle les Maximes des Pères, au chapitre 5, énoncé 3 de ce chapitre, parle en effet des 10 épreuves d'Abraham, mais je ne vais pas rentrer dans la différence de typologie et de typologisation, ce serait trop complexe. En tout cas, retenons ceci, c'est le plus significatif pour notre propos. que parmi les 10 épreuves, 10, les 10 épreuves, d'une certaine manière, sont parallèles aux 10 paroles qui ont été prononcées par Dieu pour engendrer le monde, pour tirer le monde du néant, pour faire advenir le monde. Et il apparaît aussi que sur ces 10 épreuves, 9 d'entre elles concernent, d'une certaine façon, sont des tests, on pourrait dire les choses ainsi, pour la caractéristique fondamentale d'Abraham, c'est-à-dire pour sa vertu fondamentale qui est en hébreu le chesed, c'est-à-dire la générosité. Alors que la 10e, c'est effectivement le fameux sacrifice d'Isaac. Alors on pourrait reparler tout à l'heure, si vous voulez, de savoir quelles sont les 9 épreuves précédentes qui mettent toutes Abraham au défi, finalement, de se confirmer dans cette caractéristique de l'homme qui est celui de la prodigalité, si vous voulez. Alors la 10e épreuve, c'est effectivement celle qui consiste à demander, à exiger d'Abraham le sacrifice éventuel de son fils, dont on sait que la naissance était longtemps différée, et par conséquent, c'est presque un énoncé paradoxal, après la promesse de la naissance, d'exiger d'Abraham, une fois son fils né, qu'il l'offre en sacrifice. Donc c'est une épreuve. Maintenant, la question est de savoir comment comprendre cette notion d'épreuve, et je crois que c'est vraiment l'enjeu principal de ce passage, enfin si on devait en extraire les principaux enjeux. La notion d'épreuve en hébreu traduit le terme hébraïque nisayon. Alors le nisayon en hébreu, ça n'est pas l'épreuve au sens de ce qui cause l'affliction ou la peine, mais c'est l'épreuve au sens où, d'une certaine manière, on demande à quelqu'un de faire ses preuves, d'apporter en quelque sorte la démonstration qu'il est bien digne de ce qu'on lui associe généralement, en l'occurrence chez Abraham, la capacité, l'aptitude, la vertu de générosité, de chesed. Mais dans le cas particulier de ce qui lui est ici demandé, il s'agit de le mettre à l'épreuve et de lui demander de faire ses preuves sur une caractéristique où généralement il n'est pas attendu, c'est-à-dire la vertu de la rigueur. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je dis les choses ainsi? Il faut faire un détour par ce que représentent les trois patriarches Abraham, Yitzhak et Jacob dans la tradition juive et notamment dans la tradition kabbalistique. Les patriarches, la Kabbale, comme vous le savez sans doute, envisage le fait que la création est venue à l'existence grâce à 10, on pourrait dire 10 attributs divins qui sont impliqués de manière simultanée dans le processus de l'engendrement des mondes. Et on parle des séphirotes, les fameuses séphirotes, c'est-à-dire les énergies divines à l'œuvre dans le monde. Abraham est censé représenter la séphira du chesed, c'est-à-dire la séphira de la générosité et de la prodigalité. Isaac est censé représenter la séphira de la rigueur, le din en hébreu, mais je crois savoir qu'en arabe le terme est le même, n'est-ce pas? Et puis le personnage de Yaakov représente la synthèse des vertus antérieures et d'une certaine manière la synthèse des valeurs. Alors ce qui est demandé, vous le comprenez peut-être mieux maintenant, à Abraham, c'est de montrer qu'il est au-delà de ce qu'il est déjà, c'est-à-dire l'homme de la prodigalité, l'homme également capable de rigueur. Et être capable de rigueur, c'est être capable finalement de se rapprocher à ce point de son fils que ce qui va lui être imparti, à savoir de reprendre ce qu'on appelle en hébreu le korban, c'est-à-dire l'objet même du sacrifice, eh bien qu'Abraham est capable de concéder à cela. Autrement dit, sur les 10 épreuves qui lui sont imposées, 9 corroborent l'idée qu'il est l'homme de la prodigalité, mais la 10e qui est exigée de lui, qui est un véritable test, c'est de montrer qu'il est aussi bien le père de celui qui va incarner la rigueur. Donc c'est en fait moins Abraham, moins Yitzhak qui est mis en quelque sorte en cause que Abraham lui-même. Il est mis au défi de montrer qu'il est capable d'autre chose que ce dont on a l'habitude, d'une certaine manière. Mais dans une perspective qui est celle des engendrements, ce qu'on appelle en hébreu les toladot. Les engendrements, ce n'est pas seulement la procréation, le fait qu'une génération mette au monde une nouvelle génération, mais le fait que la procréation se double dans la perspective hébraïque d'un développement spirituel. C'est-à-dire que les engendrements sont des étapes dans l'évolution de l'humanité. Donc si la vertu de générosité existe, eh bien, elle est capable d'engendrer la rigueur. Et pourquoi est-ce que Yaakov représente la synthèse? Parce que Yaakov, c'est la justice. Et la justice, dans la perspective hébraïque, c'est une synthèse de la générosité et de la rigueur. Toute véritable justice n'est pas que amour pur, c'est l'amour conjoint à la rigueur. Donc voilà pourquoi, dans la perspective kabbalistique, les trois patriarches sont liés, pas seulement par un lien d'engendrement, mais par un lien de consécution et de synthèse des valeurs qu'ils représentent. Ça va jusqu'à présent?
Va.
Voilà.
Ouais, super. Un petit peu plus long, mais ça va.
Merci. Là, c'est l'essentiel.
Merci Georges Elia. Sur le Père Éric, sur cette première partie de. Je dis bien, hein, sur. Georges Elia est un peu rentré dans le contenu, mais oui. Peut-être sur la méthodologie, je dirais.
Sur la méthodologie.
Herméneutique, comment on lit un texte en univers chrétien.
On verra le texte après.
Ouais.
D'accord. Dans la tradition, alors je parle comme catholique, même si sur ce plan-là, peu de choses nous séparent catholiques et protestants. Un peu plus avec les orthodoxes, sinon dans la théorie, au moins dans la pratique. Enfin bon, je suis prêtre catholique et je parle à ce titre-là. Et l'événement, je crois, important qui s'est produit il y a 55 ans maintenant, c'est le Concile Vatican II qui a permis de poser les bases et de reprendre les bases de l'herméneutique biblique catholique, chrétienne. C'est-à-dire de trouver le, non pas un compromis, mais de retrouver l'exigence d'une herméneutique qui accepte que le texte soit historiquement situé et que, historiquement situé, il porte une parole de vérité. Voilà. Cette tension entre historicité du texte et transcendance de son message. Il n'y a pas que la Bible qui porte cette tension-là, mais comment l'herméneutique chrétienne va prendre en compte cette exigence pour son texte fondateur. Les pères de l'Église ne se sont jamais écartés de cette exigence. Alors il y en a qui ont plus réussi l'un, qui ont plus réussi l'autre. Mais voilà, les pères de l'Église ne sont jamais départis de ce projet. Hein, et ce sont des grands hommes comme Henri de Lubac, on va le nommer puisqu'on est quasiment chez lui, qui ont permis de ce retour, cette redécouverte des pères de l'Église, et permettent à l'Église du XXe siècle de sortir de l'ornière dans laquelle elle était plantée avec la crise anti-moderniste, anti-moderniste, appelons-la comme vous voulez. Et donc, au Concile Vatican II, finalement, les théologiens ont déjà répondu assez paisiblement à toutes ces questions-là. Ils ne le crient pas tout fort, mais tout le monde sait ce qu'ils pensent. Et le Concile Vatican II va pouvoir donner l'assise officielle d'une herméneutique chrétienne de l'Écriture qui tienne compte à la fois de l'historicité et de la transcendance. Le concept clé pour faire ça, ça va être le concept de genre littéraire. C'est-à-dire qu'il est impossible d'interpréter un texte sans commencer par se poser la question de quel genre littéraire il s'agit. Et là, il y a foison de possibilités de réponses dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse pour nous chrétiens. Vous avez des poèmes, vous avez des textes législatifs, vous avez des textes historiques, vous avez de la littérature de moins bons effets, vous avez des notes. Enfin voilà, vous avez, du point de vue des genres littéraires, vous avez foison de choses. Et à ça, il faut ajouter que la Bible est écrite. Je vais dire sur 1000 ans d'histoire, vous allez me dire un peu plus que ça, que les plus anciens textes, ils sont plus vieux, enfin peu importe. Alors 1000 ans d'histoire, prenez 1000 ans de littérature française. Donc 2018, ça fait 1018. Qu'est-ce qu'on a écrit en français en 1018? Pas grand-chose. On est vraiment au tout début. Voilà, vous avez 1000 ans de littérature, écrit dans des contextes différents, écrit dans des... dans des communautés différentes, écrites avec des intentions différentes. Voilà. Donc prendre en compte ça. Un exercice que je fais souvent en première année avec mes étudiants, je leur mets deux textes de la Bible, de Saint Paul et de Saint Jacques, c'est un classique, et je leur dis, lequel n'est pas de la Bible? Je reconnais que c'est vache. Mais les deux sont dans la Bible et ils disent exactement le contraire. Voilà. Une fois que c'est fait...
Et vous perdez beaucoup d'air?
Non, parce que je connais la stratégie, du coup j'ai une boîte de chocolat qui traîne pas loin. Et... pas ce soir, désolé. Ouais. Et donc voilà, ce concept de genre littéraire qui veut prendre donc en compte la diversité de la Bible. Hein, il y a même trois langues. Enfin, pour nous chrétiens, il y a l'hébreu, l'araméen et puis le grec. Donc trois langues. Et puis l'unité. L'unité de la Bible. Si on croit que ce texte tout entier nous permet de faire l'expérience de la rencontre avec le Créateur, c'est qu'il y a une unité. Et l'unité, on la cherche derrière le mot d'alliance, qui en grec est le même que testament, les dispositions notariales, ça c'est pour un contrat, une alliance, ou les dispositions testamentaires. Et donc notre acte de foi, quand nous lisons la Bible dans cette grande diversité, c'est de dire, c'est une parole qui est valable pour une vie après la mort. Et ça c'est le mot de testament qui articule, qui est utilisé par les chrétiens pour donner les deux grandes parties de la Bible, dit quelque chose de la manière dont nous lisons, de ce pourquoi nous le lisons. Et que tous les textes de la Bible, malgré leur contexte historique, malgré qu'il y en ait qui ne parlent pas de résurrection, ou même qui ont pu être écrits en des temps où la foi en la résurrection n'était quand même pas très explicitement formulée, malgré cela, tous ces textes, nous les lisons parce que nous croyons qu'ils nous apprennent à accueillir une vie qui va au-delà de la mort. En posant ça, en posant ce terme-là, donc en étant même assez factuel, qu'est-ce qu'on espère et qu'est-ce que ça peut produire pour aujourd'hui ? C'est essayer de trouver les chemins d'une lecture qui trouve la ligne de crête entre fondamentalisme et relativisme. Fondamentalisme, on voit bien ce que c'est. Justement de ne pas accepter les tensions propres au texte. Et le relativisme, c'est dire, mais puisqu'il y a tension, c'est que tout ça, c'est des carabistouilles. Par exemple, prendre un élément dans les évangiles, entre ce que nous dit Matthieu et ce que nous dit Luc, ou bien Jésus est né en moins 2, ou bien il est né en moins 6. On va faire simple. Voilà. Donc, le relativisme est de dire, donc les évangiles ne nous disent rien d'historique. Voilà, et on laisse tomber. Le fondamentalisme, là, il se casse les dents quand même, parce que c'est ou l'un ou l'autre. Hein. Ça fait partie, là aussi, des lieux importants. Et donc, trouver les chemins d'une lecture qui va dire, pourquoi Luc y fait ça ? Qu'est-ce qui permet à Luc de faire cette composition-là ? D'où vient la difficulté, d'où vient la tension ? Et donc de mieux apprécier le témoignage de chacun des évangélistes pour lui-même, avant de les comparer. Et donc d'accueillir ce qu'ils nous ont à nous dire. En fait, les évangélistes ne font pas tellement œuvre d'historien. Ce qui ne les intéresse pas tant, c'est de nous donner le détail, c'est de nous dire quelque chose sur celui dont ils nous racontent l'histoire. Et que dans la mentalité de l'époque, raconter l'histoire de quelqu'un, on n'est pas précis sur la date de naissance. C'est comme ça. Et donc à partir de là, on peut avoir une lecture des textes qui soit ni fondamentaliste, ni relativiste, qui permette à chaque fois de focaliser l'effort de foi et de raison mélangés pour nous chrétiens, toute la Bible, c'est une quasi-incarnation du Verbe. Hein, un des textes forts des évangiles, c'est « Le Verbe s'est fait chair ». Et Origène, qu'on considère comme le père de l'exégèse, Origène est du 2e siècle, hein, la fin du 2e siècle, début du 3e, qui n'est pas considéré comme un père de l'Église, parce que, mais que de Lubac disait, ça, si j'étais pape, la première chose que je ferais, c'était de le mettre père de l'Église. Donc ce fondateur de l'exégèse dit, l'Écriture, c'est la quasi-incarnation du Verbe. Donc voilà, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Lire ce texte-là avec foi et raison, c'est une rencontre avec Jésus lui-même, lui que nous croyons vivant et lui que nous croyons nous conduire à la vie éternelle. Je reviens à nouveau sur ce mot de testament et il me coupe la parole.
Absolument. Merci de l'avoir remarqué, cher Eric. Parfait. Khaled, même question donc sur la façon dont la tradition d'islam, tradition musulmane, on lit la parole de Dieu, le Coran, comment on l'interprète, de manière générale, comment c'est macéré, ce qu'il y a différents niveaux de lecture. Voilà.
Bien.
Même toi, à peu près, si tu veux bien.
Et tu as large latitude de m'interrompre quand je te passe le temps qui m'est imparti.
Parfait.
Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. À mon tour de vous parler, je ne sais pas si c'est du point de vue orthodoxe de la tradition religieuse islamique.
C'est vrai que je n'ai pas mis des guillemets, j'aurais dû.
Mais ce que j'ai cru comprendre dans la version standard, parce qu'il y a tellement de versions, et même j'aggraverai mon cas en disant qu'il vaut mieux qu'on ait deux approches, surtout que nous sommes dans un cadre académique, rigoureux, j'ose dire universitaire. Il y a l'approche confessante, la lecture confessante, et puis l'approche anthropologique du fait religieux. Si on est dans ce second cas, parler d'Abraham, de tel ou tel nom, ça ne relève que de ce que d'aucuns appellent les FSI, les figures symboliques idéales, qui construisent tout un récit. Donc on oublie ça, on aurait pu le faire. Et là, je parlerai d'une lecture confessante dans le cadre de la foi, ou ce que d'aucuns appellent la raison religieuse. Certains veulent bien la qualifier de dévote, mais ça, c'est une autre histoire. Donc l'approche, elle est plutôt au sein de la raison religieuse. D'abord, la tradition religieuse islamique ne se veut pas nouvelle du point de vue de sa cohérence interne. Elle est continuatrice dans un prolongement naturel et elle est propagatrice des commandements du Premier Testament et des préceptes de l'Évangile. C'est délicat comme point parce qu'on est peut-être dans une logique d'une présentation séquentielle de la révélation et celui qui parle le dernier a nécessairement raison. Non, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Donc c'est dans ce contexte que je vous raconterai ou je vous dirai ce qu'il en est de la ligature pour dire Isaac, puisque le nom n'est pas cité coraniquement. La rigueur me fera dire que dès lors que le nom n'est pas cité, ça peut être Isaac, ça peut être Ismaël. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi la tradition veut que ce soit Ismaël. C'est un passage très court, il y a 6236 versets coraniques, ils ne sont pas tous d'ordre prescriptif ou normatif ou législatif comme certains le pensent. Cette partie-là n'est que le 1/30 du corpus, les 29 autres 30e sont des récits, des histoires, des appels à la générosité, il y a de la spiritualité. Et donc, le récit des prophètes émaille l'ensemble du corpus. Et ce qui nous intéresse là, c'est d'abord une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, c'est une section. Le mot vient du syriaque, c'est pour dire que Dieu ne parle pas qu'arabe, ou il fait des emprunts lexicaux. Ça, c'est un clin d'œil fait à ceux qui pensent que la langue de Dieu est nécessairement l'arabe. C'est aussi un autre débat théologique. Et donc cette sourate 37, qui s'intitule « Les rangées », parce que les sourates ont des noms, et le passage qui nous intéresse est entre 100 et 111, on peut aller jusqu'à 112, 113, mais plus exactement entre 100 et 111, donc une douzaine de versets, qui d'une manière très elliptique nous raconte cette histoire. Ça commence par une prière d'Abraham. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux ou parmi les gens vertueux. Et c'est comme une sorte de récit ou de dialogue et c'est Dieu qui parle, pour les croyants musulmans en tout cas. Nous lui fîmes une bonne annonce et un don d'un garçon longanime, un garçon magnanime. Et puis, alors étonnamment, on passe très vite, c'est pour ça que je vous ai dit que la présentation est très elliptique. Et puis, quand celui-ci, c'est-à-dire le garçon, fut en âge de l'accompagner, d'accompagner Abraham, Eh bien, le père, Abraham, dit « Oh, mon fils, j'ai vu en songe que j'ai à t'immoler. Qu'en penses-tu ?» La réponse du fils est « Oh, mon père, fais ce dont tu as été commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, parmi ceux qui savent endurer ou parmi les patients. » Dans une autre traduction. Et la suite, c'est que lorsqu'ils s'en furent remis, les deux, à cette épreuve, dans le sens que Georges Elias Serfati a donné, lorsqu'ils s'en furent remis à cette épreuve et qu'il l'a jeté franc sur terre, bien, nous le rançonnâmes, nous l'appelâmes, c'est au passé simple, « Ô Abraham, tu as confirmé la vision et nous rançonnâmes le garçon d'une belle rançon généreuse. » Plus tard, la tradition veut que ce fût un bélier, mais le bélier n'est pas bien précisé. Alors on peut arrêter là le récit, mais sinon on l'ajoute « Abraham est certes parmi les bienfaisants, et plus tard, Ismaël sera considéré dans la tradition comme celui qui sait faire preuve de patience. » J'arrête le récit tel quel. Je crois que...
Tu as du temps, tu auras plus de temps après si tu souhaites.
Pas loin, j'ai 7 minutes. Le récit est celui-là. Je dirais tout à l'heure, pour respecter, j'allais dire, les séquences, pourquoi dans la tradition islamique, le nom est celui d'Ismaël et non pas celui d'Isaac.
Très bien. Merci, Raël.
Je t'en prie.
Donc, deuxième temps.
Oui.
On va maintenant poursuivre ou rentrer dans le
Alors, je m'aperçois donc que j'ai répondu dans l'ordre inverse de celui qui était
un
prévu.
Un petit peu, mais...
Nettement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est simplement expliciter les présupposés de mon propos, c'est-à-dire poser le cadre que j'ai omis de poser, si vous voulez, comme ça, les choses seront cohérentes pour tout le monde. Alors, la question se pose à partir d'une certaine compréhension de la révélation. D'abord, confirmation, évidemment, de ce que... la tradition rabbinique est très attentive à la découpe générique des textes. Il y a des textes qui ont un caractère légal, des textes qui ont un caractère narratif, homilétique, etc. Donc la dimension que rappelait le père Morin tout à l'heure est tout à fait partagée également par les trois monothéismes. Donc la révélation, c'est la thématique fondamentale. En hébreu, révélation se dit itgaluyot. Et en fait, révélation, là aussi, est une traduction assez approximative parce que l'idée de contenue dans le terme hébraïque itgaluyot, c'est plus exactement l'idée du dévoilement. Dieu se dévoile à l'humanité, lui communique à travers ses prophètes et lui communique des messages liés aux fins dernières de l'humanité et de la création. La question de la révélation maintenant s'articule à deux moments fondamentaux, celui de la révélation par une série d'alliances successives qui commencent avec l'épisode d'Adam, donc l'humanité primordiale, en passant par Noah, etc., jusqu'à la révélation du Sinaï, et là qui est considéré comme le moment de ce qu'on appelle la révélation de la Torah écrite, c'est-à-dire les principes fondamentaux. À partir de là, se développe toute une tradition qui est proprement la tradition rabbinique, qui déduit de la Torah reçue par Moïse tous les principes qui peuvent être inférés, des principes généraux, et c'est là que se développe la notion de Torah orale, de loi orale. Ce qui explique finalement qu'à partir du 1er et du 2e siècle, on est d'une certaine manière dans la perspective juive une continuité et une continuation de la révélation, puisque la mise par écrit de la loi orale qui était tenue entretenue dans un lien de maître à disciple direct devient accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est un phénomène qui se poursuit jusqu'à notre époque, puisqu'au fond on a les grandes segmentations, le Talmud, le Midrash, la Halakha, la Kabbale, etc. Donc ça, ce sont les développements de la loi orale. Maintenant et enfin, On considère que le corpus astreint globalement la collectivité à l'observance de 613 commandements. Le 6 commandements, c'est une traduction approximative, on parle des mitzvot en hébreu, ce sont des devoirs religieux d'une certaine manière. Mais à l'épreuve des faits, il apparaît que les 613 commandements ne peuvent pas s'appliquer unanimement à l'ensemble de cette collectivité, puisque certains commandements concernent la collectivité par elle-même. Certains commandements concernent les rituels liés au temple. Certains commandements concernent plus précisément les devoirs spécifiquement féminins. Certains autres commandements, les devoirs spécifiquement masculins. En sorte que dans l'état actuel des choses, la halakha pratiquement se ramène, on pourrait dire, à environ 200 commandements. Les autres commandements sont objets d'étude. Mais pratiquement, il y a environ 200 commandements qui s'appliquent aujourd'hui à la collectivité d'Israël. Et puis enfin, la notion de foi, qui est tellement centrale dans les trois monothéismes, en hébreu, on parle de la émouna. Alors, il est important de préciser ce que veut dire ce terme, et j'en ai terminé. Emouna est traduit en grec par pistis, en latin par fides et en français par foi, mais comme nous sommes dans un champ culturel particulièrement dualiste, on a longtemps eu tendance à opposer, en tout cas dans le contexte occidental, la foi et la raison. Avec le concept de Emouna, c'est impossible en hébreu. Pourquoi ? Parce que Emouna est de la même racine que le mot Emet, qui veut dire vérité. Autrement dit, la Emouna, c'est une adhésion, c'est un consentement rationnel. Et lorsque les gens disent Amen, ça n'est pas un saut dans la foi, sous-entendu comme s'il y avait solution de continuité entre la raison et la foi, c'est la confirmation d'un assentiment rationnel. C'est nous adhérons rationnellement à ce qui nous est dit. Autrement dit, ce qui est dit est vérifiable. Voilà la portée de cette notion de Emouna. Ça, c'est fondamental de l'Europe.
Est-ce que, par exemple, parce que vous avez du temps, sur la partie pour recentrer sur le texte, peut-être vous l'avez avec vous, vous pouvez le lire éventuellement ou... Est-ce qu'il y a, on lira après peut-être via Père Éric, mais est-ce que, par exemple, les discussions qu'il peut y avoir sur les interprétations de ce texte, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des grandes, c'est infini, c'est...
Infini non, mais pas loin. Il y a quelques bibliothèques,
Il y a quelques bibliothèques,
C'est pour ça que j'ai surtout situé la portée des concepts principaux comme notion d'épreuve, qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelles sont les caractéristiques vertueuses des patriarches, et donc quelle est la signification en dernière analyse de cette notion de ligature d'Isaac. La ligature d'Isaac, c'est le fait que spirituellement, Abraham se relie à la rigueur d'Israël. C'est ça la notion de ligature. Ce n'est pas le fait qu'il soit lié sur un bûcher ou offert en holocauste, c'est qu'il y a un enchaînement du cycle des vertus. Les vertus se lient les unes aux autres et c'est comme ça qu'elles sont intelligibles. Sinon, effectivement, on a ce que Père Mort appelait une sorte de fondamentalisme. D'un côté, il y aurait les généreux, de l'autre côté, les rigoristes et de l'autre côté, les tenants d'une justice pure. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une dynamique des vertus. Et c'est en ce sens qu'une approche anthropologique permet de comprendre que la notion de ligature est une réflexion sur la dynamique des valeurs.
Mais pourquoi l'épreuve est là de demander de sacrifier quand même, et de relier. Alors, en quoi est-ce qu'il y a la rigueur? D'accord, je comprends que Isaac...
Parce que Isaac est effectivement, comme l'a rappelé Khaleb, Isaac est dans l'acceptation du sacrifice éventuel. Mais en fait, là où c'est une éventuelle épreuve pour Yitzhak, c'est que l'épreuve d'Yitzhak ne consiste pas tant à être sacrifié qu'à être disposé au sacrifice. Et c'est par là qu'il fait acte de soumission à Abraham et donc à Dieu.
Peut-être relire le texte.
Tu veux qu'on le relise La traduction que j'ai, c'est celle de la Tob. Elle est sujette à caution, mais sans doute. Après ces événements, il arriva que Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Il reprit « Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste, sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac, il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, Demeurez ici, vous avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit l'épluche pour l'Holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père, Abraham. « Mon père, » dit-il, et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et déposa les bûches. Il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Il reprit, « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux. Il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur voit ». Aussi, dit-on aujourd'hui, c'est sur la montagne que le Seigneur est vu. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique. » Je m'engage à te bénir, à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. Abraham revint vers les jeunes gens. Ils se levèrent et partirent ensemble pour Beersheba. Abraham habita à Beersheba.
Merci. Tu peux continuer.
Je peux continuer.
Parce que tu n'as pas du tout.
Après ces événements, on annonça à Abraham. Alors, j'insistais donc sur la notion de genre littéraire tout à l'heure. Georges Eliane nous a présenté un genre littéraire initiatique, un récit d'épreuve, avec cette progression des vertus. J'y vois aussi, mais ça, à mon sens, ça n'est pas contradictoire. Un récit qu'on appelle étiologique, c'est-à-dire qui donne la cause d'un culte. Une première raison à ça, le nom de la montagne, le Seigneur voit, en hébreu ça se dit Moria, et la montagne de Moria, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 3, verset 1, est identifiée avec le temple de Jérusalem. Ce qui veut dire que l'interprétation du livre des conneries de cet épisode-là consiste à dire « Le geste d'Abraham est le geste fondateur du culte qui est rendu à Jérusalem. » Il y a d'autres récits qui donnent d'autres raisons pour lesquelles il y a un culte qui est rendu au Seigneur à Jérusalem, notamment avec David qui achète l'herbe d'Arbona, le Jébusite, pardonnez-moi. Mais c'est celle-là qui nous intéresse. Donc on a un texte qui nous fait aussi réfléchir sur la dimension cultuelle de la relation à Dieu. D'autant plus que s'il y a bien une chose qui est claire quand on lit la Bible, ne serait-ce que de manière rapide, c'est qu'il y a un truc que Dieu n'aime pas, c'est qu'on lui offre des enfants en sacrifice. C'est, dans le livre de Jérémie, on peut le traduire comme ça, je crois, « Je ne vous l'ai pas interdit, ça ne m'est pas monté au cœur. » De fait, oui, je n'ai pas dit que... Voilà. Donc pour Dieu, c'est vraiment le truc absurde. Et le seul endroit où il semblerait que Dieu pourrait avoir envie de demander quelque chose de semblable, c'est ici. Et en fin de compte, Georges Eliane l'a bien souligné, il n'y a pas de sacrifice d'Isaac. Et donc ce texte fait partie aussi, je crois, de la pédagogie de Dieu, selon laquelle il interdit à son peuple d'avoir ce genre d'idée, puisque même au patriarche, il ne lui a pas demandé. Et qu'il y a donc une épreuve qui est proposé à Abraham. La Bible fait, je crois, un peu mauvaise presse aux nations étrangères de pratiquer trop régulièrement ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas, mais bon, voilà. En tout cas, Abraham est présenté comme quelqu'un qui veut offrir ce qu'il y a de mieux, son fils, son unique, celui qu'il chérit, à Dieu, et puis qui va être amené à faire un chemin par lequel il va reconnaître que ça n'est pas ça que Dieu lui demande. C'est en cela qu'il y a épreuve initiatique. Ce qui est important, c'est que, tel que je viens de vous le raconter, j'ai supprimé le premier verset. C'est-à-dire, si on le raconte comme ça, Abraham regarde les autres nations, il veut faire comme elles, et puis Dieu le retient en lui disant « Non, pour toi, c'est pas pareil. » On ne tient pas compte du fait que c'est Dieu qui appelle Abraham et lui dit « Voilà ce que tu vas faire. » À partir du moment où Dieu, Abraham, fait comme les autres nations, mais il le fait en obéissant à Dieu, il le fait déjà d'une manière différente. Et c'est dans cette différence qu'il y a un écart qui va lui permettre de poser le couteau au bon moment. Et donc il y a bien une épreuve qui réfléchit sur qu'est-ce qu'il convient d'offrir à Dieu et comment Dieu conduit Abraham et donc les fils d'Abraham et donc son peuple tout entier à lui offrir ce qui convient. Dans la tradition chrétienne, avec saint Paul, la lettre aux Galates et la lettre aux Romains, on est amené à parler de la foi d'Abraham, la pistis, Abraham, le père des croyants. Le texte ne parle pas de la foi d'Abraham. Il dit, l'ange dit, je sais que tu crains Dieu. Donc parler de la foi d'Abraham, c'est une interprétation qui n'est pas non plus complètement tiré du texte, parce que il était, je crois, de bon ton, on en a des traces dans le livre du Siracide, dans la tradition juive, au IIe siècle avant Jésus-Christ, de relier ce texte-là avec celui du chapitre 15, « Abraham crut et cela lui fut compté comme justice ». Qu'est-ce qui fut juste pour Abraham ? Donc voilà, ces textes sont mis en perspective de manière fluide, les uns un peu comme un kaléidoscope, je crois que là. L'herméneutique biblique, c'est du kaléidoscope. On met les textes en perspective jusqu'à ce qu'il y ait un peu de lumière qui passe à travers eux. Et donc, s'il y a une foi d'Abraham, je ne pense pas que ça soit d'avoir levé le couteau sur son fils. Parce que si Dieu, et si c'est ça Dieu, ben, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais de dire que la foi d'Abraham, c'est d'avoir posé le couteau. C'est-à-dire d'avoir accepté que Dieu, dans cette épreuve, se soit révélé à lui autre que ce qu'il croyait, autre que ce qu'il pensait. Et là, je trouve que ce texte prend une valeur de leçon de foi pour tout croyant, quelle que soit sa confession. Je dis foi en prenant un terme que j'affectionne particulier, mais j'accepterais que, d'abord, qu'est-ce qu'on ne me demande pas mon avis, mais qu'on prenne d'autres termes. Mais je crois que le plus grand danger, c'est d'enfermer Dieu dans l'idée qu'on s'en fait. Et ce texte-là nous montre que l'épreuve d'Abraham, c'est d'avoir accepté que Dieu ne soit pas conforme à l'idée qu'il s'en soit fait. Enfermer Dieu dans l'idée qu'on s'en fait, c'est contrevenir à la première parole du Décalogue, au premier commandement. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le deuxième, on ne se fera pas d'image de lui. Si j'enferme Dieu dans l'image que je m'en fais, je me suis fait une image de lui. Et donc l'épreuve d'Abraham, c'est vraiment, et le mot Nassa en hébreu est utilisé beaucoup dans l'Exode. La difficulté des fils d'Israël, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Et je trouve que c'est très intéressant parce que le peuple n'a pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve, et Dieu il ne se gêne pas pour mettre Abraham à l'épreuve, c'est pas juste. Parce que si nous, on met Dieu à l'épreuve, on s'interdit d'éprouver sa fidélité. Parce que c'est « fais-moi ça ». S'il voulait le faire, qu'est-ce que j'en sais ? Mais je ne peux plus le savoir. Demander des signes, c'est s'interdire d'accueillir les signes de manière gratuite et gracieuse. Et donc, de fait, on n'a pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve, parce que c'est s'interdire d'éprouver sa fidélité, et c'est lui donner un rôle précis. L'épisode de la manne ou des cailles dans l'Exode ou dans les Nombres. Bon, on a passé la mer Rouge, est-ce que tu ne peux pas t'occuper de nous maintenant et nous donner à manger? Et donc le peuple ne peut pas voir la prodigalité du Seigneur. Il a appris à la voir justement à travers l'épreuve du désert. Abraham a fait cette épreuve-là autrement et finalement, qu'est-ce qu'il va offrir? Il va offrir le bélier, symbole de paternité, c'est-à-dire que ce fils qui était son fils, son unique, qu'il chérit, Isaac, il est nommé 4 fois quand même au premier verset, son fils, à qui dans la vieillesse, il reconnaît qu'il est un don de Dieu. C'est-à-dire qu'il offre sa propre paternité à Dieu et reconnaît que ce fils lui est donné par Dieu. Et là, c'est un vrai changement de la relation avec Dieu. Il n'a pas à offrir à Dieu quelque chose, y compris ce qu'il a de plus précis. La seule chose qu'il a à offrir à Dieu, c'est d'être capable de rendre grâce, de dire merci, d'être dans la reconnaissance, dans la fidélité, parce que c'est Dieu qui donne. Et ça, c'est un chemin d'épreuve constant.
Donc Isaac nommé 4 fois dans le Premier Testament, mais pas nommé dans le Coran.
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Dans cette deuxième partie, je ne sais pas s'il y a une troisième partie, donc c'est pour ça que j'ai dit deuxième,
oui.
Sinon j'aurais dit seconde partie. Il y aurait 2 approches. La première, une exégèse du passage lui-même, et après, qu'est-ce qu'on a fait, la tradition, et comment ça nous parle maintenant. En tout cas, ce passage est fondateur de la définition même de qu'est-ce que c'est qu'être musulman, et ce que c'est que l'islam. On a coutume de traduire le vocable islam par soumission. Ce qui est un non-sens total. C'est abusif, c'est faux, ce n'est pas conforme à la réalité, et j'en veux comme seul argument, j'en ai 36 000, c'est qu'on a un écrivain qui s'est essayé à produire une fiction littéraire qu'il a nommée « Soumission ». Elle a été traduite en langue arabe. Vous pensez qu'on l'avait nommée « Islam » ? Absolument pas. Donc, c'est curieux cette traduction qui ne soit pas dans une stricte synonymie. On ne peut pas dire que l'islam vaut soumission et le mot soumission français n'est jamais rendu en langue arabe par islam. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, ça pousse à réfléchir. Et si on ne veut pas avoir mot pour mot, il y a une périphrase. Et la meilleure périphrase qui rende compte de ce que veut dire le vocable islam, c'est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à. Pour la simple raison que le mot islam est construit sur la racine trilitaire SLM qui renvoie à la paix et au salut. Donc islam avec le I qui indique une introduction en la matière, une entrée en la matière. Donc islam, c'est une pacification. Alors en réalité, c'est le geste d'Abraham. Abraham a fait acte d'islam en consentant, parce qu'il a consenti à offrir son fils en holocauste, dans un premier temps en tout cas. Il a accepté ce qu'il a vu en songe, en tout cas la vision, ça lui a coûté, c'est extrêmement coûteux. Il a un fils qu'il a eu au moment où il a désespéré d'avoir une progéniture, il en était ravi. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, il l'a eu avec Agar, etc., on pourra en parler. Et d'ailleurs, les exégètes disent à ce sujet, pardon, la présentation est un peu décousue, mais je tiens à préciser ce point à ce moment-là, c'est qu'Ismaël a été sauvé 2 fois. Il a été sauvé une première fois lorsqu'il a été chassé avec sa mère dans le désert, alors nourrisson, et elle courait d'un endroit à un autre. Je ne vous donnerai pas la topographie des lieux, c'est Safa et Marwa. D'ailleurs, Marwa a le même son comme Moria. Donc, entre Safa et Marwa, et alors elle implorait la tendresse du Seigneur ou la mansuétude de Dieu pour qu'il sauve, en tout cas, au moins son fils. Et au bout d'un moment, le nourrisson tapait comme ça des pieds et il y a une fontaine qui sourd par en dessous de ses pieds. C'est la fameuse fontaine Zamzam qui se trouve à la Mecque, autour de la Kaaba. Donc ça, c'est une première fois. La seconde fois, c'est lorsque le sacrifice non-sacrifice n'a pas pu avoir lieu. Je mets 2 traits d'union entre les 3 mots, sacrifice, non-sacrifice. Donc, ce récit légitime ou explique ne serait-ce qu'au niveau étymologique, mais aussi spirituel, qu'est-ce que ça veut dire être musulman, qu'est-ce que c'est qu'être, faire acte d'islam, Abraham, de ce point de vue-là, est musulman. Ce n'est pas le mahométan, pour parler comme les Turqueries de Molière, celui qui prie 5 fois par jour, qui jeûne pendant une lunaison qui est le mois de Ramadan et tout, ce n'est pas le mahométan, c'est le musulman spirituellement et étymologiquement, j'allais dire théologiquement. Et de ce fait-là aussi, Marie est présentée dans le Coran ou ailleurs comme une musulmane. Les apôtres sont musulmans au sens, encore une fois, étymologique et spirituel. Ce n'est pas dans le sens historique ou technique, si je puis dire. Et d'ailleurs, même, il y a une inversion. Longtemps, la prédication mohammedienne durant la période mécoise était un retour à la religion d'Abraham, et ceux qui l'avaient suivi étaient des croyants, alors que les juifs et les chrétiens étaient musulmans au sens où ils se sont remis à Dieu. Et après, ça s'est inversé durant la période médinoise. Étonnamment, les croyants sont ceux qui croient en l'unicité de Dieu, et les musulmans, ça s'est rétracté à ceux qui ont suivi la prédication mohammedienne. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est bien, et grâce à l'IHEMR, qui permet non seulement à partir des textes d'établir ce qui est dans la continuité, dans une même filiation, et ce qui aussi distingue les familles, en tout cas moi, deux familles monothéistes dans la grande famille abrahamique. Alors pourquoi est-ce que les commentateurs musulmans, pas tous d'ailleurs, en tout cas ceux qui pensent que, bon, ça peut être Isaac, ne sont pas nombreux, mais il y en a ceux qui y pensent, y compris un grand commentateur du nom de Tabari, lui il est mort en 923, il y a un autre, mais son nom m'échappe à l'instant, mais ça va venir, et les autres disent, ben non. D'abord, si c'est son fils unique, ben Ismaël était unique entre 0 et 13 ans. Donc, c'est le fait de dire ton fils unique qui justifie qu'il s'agissait d'Ismaël. Dans les controverses connues entre massorètes ou rabbins juifs et théologiens musulmans, il y a les débats, oui, mais chacun est unique par sa mère. Et puis, il y a aussi la grave accusation, oui, mais il y a un ajout. Le Isaac a été ajouté post-eventum, après coup. Ça n'y était pas avant. Mais bon, ça, heureusement, nous pouvons parler là tranquillement. Et ce point-là devient le lieu de la médiation, de la rencontre. Il n'y a pas un investissement affectif ou autre que le fait d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer comme ça à travers l'histoire et ce qui fonde les fois des uns et des autres. Donc le premier argument, c'est l'unicité de l'enfant. Le deuxième argument, Isaac est venu comme une récompense au fait que Abraham a consenti à offrir à se remettre à Dieu ou à se soumettre à Dieu. Ici, quand j'ai dit tout à l'heure que le mot islam ne veut pas dire soumission, ça ne veut pas dire qu'Abraham ne s'est pas soumis à Dieu. Donc c'est la venue d'Isaac qui est une récompense, et ça permettra, toujours dans cette exégèse un peu classique islamique, qui est de faire en sorte que la renommée, la postérité, puisque le verset finit par « et nous perpétuâmes sa renommée ou son renom ». Et donc cette rétribution, cette récompense, se fait à travers ou est incarnée par la naissance même d'Isaac. Donc on a Ismaël qui entend, il y a la notion d'écoute, et Isaac avec le rire, qui amène la joie et le bonheur, disons, pour Abraham. Voilà.
Merci, Raleb.
Je t'en prie.
Juste préciser, pour revenir à la question de l'évolution d'Abraham, en fait, il y a un caractéristique assez spécifique de l'interprétation rabbinique en ce qui concerne ce qu'on appelle effectivement la foi d'Abraham. Alors il y a, comme on le voit en lisant le texte biblique, il y a deux occurrences de la même injonction qui est faite à Abraham. En hébreu, l'ech lecha, alors on traduit va au-devant de toi. En tout cas, bon, la première fois c'est au chapitre 12 et la deuxième fois c'est au chapitre 22. La même injonction n'a pas la même portée. La première fois, il est question d'engager Abraham à s'éloigner, à quitter son pays, la maison de son père, etc. Et en vue de quoi ? En vue d'atteindre la terre promise, en vue d'atteindre une terre qui lui sera désignée. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on a la seconde occurrence du fameux Lech Lecha, cette fois-ci c'est pour aller vers le pays de Moria où le fameux sacrifice, non sacrifice, sera ordonné. Or, dans l'intervalle, il y a une modification de l'attitude spirituelle de Abraham. Et sur ce point-là, il y a un élément de différence parce que l'exégèse rabbinique indique que entre le premier élan, la première fois pour aller vers le pays qui sera indiqué par Dieu, et la deuxième fois pour se rendre au lieu du sacrifice présumé, Abraham change du tout au tout. Pourquoi ? La première fois, il est dit qu'il crut en Dieu, mais il crut en Dieu, disent les commentateurs, parce que, d'une certaine manière, sa foi était intéressée. Le Dieu tel qu'il s'est le représenté était celui de la promesse, celui qui, d'une certaine manière, flattait son intérêt personnel. Il avait intérêt, d'une certaine manière. Alors, croyait-il vraiment en Dieu ou croyait-il plutôt en certains attributs de Dieu, se représentant que Dieu, c'est celui qui pourvoit aux besoins des hommes, d'une certaine manière. Donc, foi intéressée. Alors que dans le second cas, et là on est assez proche effectivement de l'interprétation musulmane, c'est que Abraham n'a aucun intérêt en propre à offrir éventuellement son fils en sacrifice. Et quand il se rend compte, ayant renoncé au sacrifice humain, comme cela a été dit préalablement, et là on a vraiment un point de rupture fort entre le monothéisme et le paganisme oriental de l'Antiquité, c'est aussi du point de vue éthiologique un récit qui fait rupture avec la pratique rituelle du sacrifice humain. Ça c'est extrêmement important. Et ça c'est quelque chose de fondamentalement commun aux trois familles monothéistes. Toujours est-il que le dénouement de ce sacrifice non-sacrifice fait que à l'être humain qu'est Israël ou Ishmael est substitué un animal. Et de ce point de vue-là, le texte conclut que Abraham effectivement voit sa foi augmenter d'un degré, d'une certaine manière. Et là, c'est le passage d'une foi intéressée à une foi désintéressée. C'est comme cela que l'évolution spirituelle d'Abraham est analysée entre les deux, l'Ech Lecha. La première injonction, ben, tu vas-y, et puis finalement, au bout du compte, tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse en propre. Mais la deuxième fois, c'est vas-y, mais c'est pour m'offrir ton fils sur le mont Moria. Et l'attitude spirituelle change du tout au tout. On passe d'un amour de Dieu guidé par l'intérêt, finalement. Donc, croit-on en Dieu lorsque tout ce qui nous arrive nous est favorable ? Et aurions-nous tendance à nous en détourner lorsque nous vivons le contraire de ce qui est favorable ? Et ça, c'est le débat théologique rémanent, y compris au XXe siècle. Un certain nombre de gens qui se détournent, qui perdent la foi, selon l'expression consacrée, sous prétexte que le malheur les a frappés, à titre individuel ou collectif. Et à ce moment-là, les exégètes disent, mais finalement, ces gens-là n'ont jamais cru en Dieu. Ils croyaient en un Dieu qui était l'administrateur des affaires humaines. Croire en Dieu, c'est croire en Dieu à la manière d'Abraham, au terme du sacrifice non-sacrifice. C'est-à-dire d'une adhésion non-intéressée. On appelle la foi désintéressée. Voilà, ça c'est un point extrêmement important.
Merci.
Et c'est ça la pureté du monothéisme. La pureté du monothéisme tient effectivement à cette pacification de l'esprit humain qui reconnaît la grandeur de Dieu sans que cette reconnaissance soit subordonnée à l'exaltation de l'intérêt personnel.
Un résultat, quoi.
Exactement.
Sur ce que disait le père Éric à propos de Moria, justement, de ce nom de Moria et de l'établissement d'une religion du temple, justement. C'est quelque chose que vous partagez aussi ou...
Ah oui, tout à fait. Oui, 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 c'est l'essentiel de l'exégèse rabbinique.
D'accord.
Le lieu du temple de Jérusalem est construit sur le mont Moria, selon la tradition rabbinique, en tout cas. C'est tout à fait évident. Oui, oui, on peut considérer que le livre des chroniques, c'est vraiment une interprétation. On dirait en termes Rabbinique, c'est un midrash du texte biblique, si vous voulez, c'est ça. Parce qu'on a des éléments d'information, des catégories de signification qui ne se trouvent pas dans le récit étiologique.
Merci. Père-Éric, sur ce que disait, enfin, à moins que vous ayez envie de rebondir sur des choses que vous avez, ouvert d'autres portes, mais par rapport à Isaac, Ismaël, est-ce que c'est important dans la tradition chrétienne, le fait que... Pour qu'il y ait ces deux fils, finalement
Il y a un texte de Saint Paul, dans la lettre aux Galates, chapitre 4, ouais. où on oppose les deux fils. Ouais. C'est-à-dire que la lettre aux Galates, c'est le premier texte, peut-être y en a-t-il d'autres, où vraiment on met en avant cette idée d'Abraham, le père des croyants. Ouais. Et du coup, le raisonnement est établi, et ben, il y a deux fils d'Abraham. Et donc, selon quelle typologie sommes-nous, par la foi, fils d'Abraham ? Et en fait, le texte ne s'intéresse pas au fils, mais s'intéresse aux mères. Et avec un peu de mauvaise foi quand même. Paul dit que Sarah était la femme libre et Agar la servante. Quand on lit le livre de la Genèse, on s'aperçoit qu'Agar est quand même une femme qui a une certaine liberté intérieure, une certaine force de caractère, auquel Paul ne prête pas du tout attention. Mais son statut est d'être servante, Sarah est la femme libre. Et donc, si on est engendré, si on devient fils d'Abraham, selon la promesse, c'est-à-dire selon Isaac, eh ben, on est enfanté à la liberté, par opposition à un engendrement selon Agar, qui est un engendrement, comme Ismaël, à l'esclavage. Je précise que l'islam n'existe pas à ce moment-là, et que donc il n'y a pas de propos polémiques à tirer. voilà, je précise, que ça ne soit pas retourné. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que finalement, il y aurait une typologie très intéressante à faire à ce moment-là, entre les deux fils, et en fait, Paul se focalise sur les mères. Parce qu'il s'agit d'un engendrement. On est fils d'Abraham, mais avec quelle mère avons-nous été engendrés? Et Sarah, la stérile, par un midrash typiquement rabbinique, Paul raccroche ça à un verset d'Isaïe où il est dit que Jérusalem, la stérile, va pouvoir enfanter. Et donc, ben voilà, c'est selon cet enfantement-là que nous, par la foi, nous sommes devenus fils d'Abraham, moi qui ne le suis pas selon la chair. Donc c'est vraiment sur les mères que Paul se focalise, et non pas sur les fils.
Bien, merci. Ralph, tu voulais rajouter quelque chose?
Si on est dans les temps...
Un peu de temps de question, non?
Oui,
mais on a le temps. Hein,
si tu... Alors... c'est une précision, simplement. Les Arabes sont des Sémites, on dit qu'ils descendent d'Ismaël, on découvre que ce n'est pas la totalité des Arabes qui descendent d'Ismaël, mais ceux qui descendent d'Ismaël sont Arabes. Et ce sont les Ismaélites, alors que les Ismaéliens, c'est une autre branche du chiisme, à ne pas confondre Ismaélites et Ismaéliens. Je voulais faire simplement cette précision. Et l'autre point, c'est que l'année liturgique islamique commémore le geste d'Abraham, la geste d'Abraham, j'ai envie de dire au féminin. C'est au lendemain du point culminant au moment du pèlerinage, et c'est la fameuse grande fête. Donc c'est une fête qu'il ne faut surtout pas appeler la fête du mouton, parce que le pauvre mouton... et n'est pas à la fête, ou c'est sa fête, en tout cas, et il ne s'agit pas de fêter un mouton. D'ailleurs, il est dit à un moment donné, à titre personnel, je ne suis pas pour qu'on substitue le sacrifice des enfants par le sacrifice des animaux, etc. Mais en tout cas, ce qui a été dit, c'est que ça peut être un ovin, un caprin, un camelin ou un bovin. Alors, c'est pas nécessairement un mouton, donc ça peut être un dromadaire, ça peut être un bœuf, ça peut être un coq, ça peut être un mouton ou un agneau. Donc c'est pas une nécessité absolue. Donc cette idée de croire que les musulmans fêtent un mouton et c'est la fête du mouton, ça n'a pas de sens. Je voulais préciser ces deux choses.
Merci, Raël.
Je t'en prie.
Merci infiniment à tous les trois. On a du temps.